Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, c'est Nicolas Rey qui nous rend visite pour son nouveau roman. C'est toujours magnifique, un roman de Nicolas Rey. On est toujours content de le recevoir. Nicolas Rey qui est aussi lecteur, il lit des textes en public, il les lit divinement. Alors c'est lui cette semaine qui nous lira quelques textes cultes d'amour, évidemment. Nous irons visiter une bibliothèque, celle de Muriel Pénicaud. Cette semaine, l'ancienne ministre du Travail est une passionnée de poésie. Eh oui, et il n'est pas impossible qu'elle nous lise quelques-uns de ses propres poèmes en plus. Nous irons nous balader dans une librairie chez Christophe Daniel cette semaine et ce grand enfant de Victor Dorland fermera la boutique avec son roman Jeunesse évidemment. Mais d'abord donc c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. J'adore Alexandre Dumas, j'adore Stephen King, Steinbeck et Fitzgerald, j'adore Harper Lee, l'auteur de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ça vous le savez, je vous saoule suffisamment avec eux. J'adore David Thomas aussi, qui est venu il y a quelques semaines pour son nouveau recueil de microfiction, et quand je vois les messages de ceux qui l'ont découvert à cette occasion, je sens bien que je suis pas le seul à lui vouer un culte. David Thomas, justement, la première fois que j'en ai entendu parler, ce n'était pas dans une librairie ou en écoutant une émission, c'était un spectacle très simple, deux types assis l'un en face de l'autre. D'un côté, un guitariste, Mathieu Saïkali, et de l'autre, Nicolas Rey, l'écrivain qui lisait des textes qu'il aime bien. Il y avait du Carver, du Albert Cohen, plein de génies, et un petit texte très simple et sublime. À la fin, j'ai demandé qui était l'auteur, et bien c'était David Thomas. Et donc, j'ai découvert et adoré David Thomas, mais quand je le lis, j'entends la voix assurée et tremblante de Nicolas Rey, que j'adore aussi. Bonjour Nicolas Rey.
Bonjour Nicolas Carreau.
Merci pour ça au fait.
Bah de rien, ouais, c'était des bons souvenirs ça, les lectures.
Ça reprendra les lectures en spectacle ?
Ouais, ça va reprendre, on va faire une troisième version des Garçons manqués là, bientôt.
Alors vous allez me dire ou penser pourquoi il nous parle de David Thomas alors qu'il reçoit Nicolas Rey, mais c'est aussi parce qu'il y a la même sensibilité brutale, la même délicatesse sans pathos, je peux pas mieux dire. C'est ça, c'est pour ça que vous l'aimez aussi.
Ah oui, je le prends comme un compliment. C'est vrai que je me suis retrouvé dans cette écriture d'écorché vif, quoi, dans cet univers-là. Ça me touche quand je lis du David Thomas. Je me sens un peu moins seul.
Alors, vous publiez La marge d'erreur, Au diable Vauvert, je résume, l'histoire de Gabriel Salin, qui vous ressemble un petit peu, 47 ans, écrivain, journaliste, il erre dans la vie en ressassant les bons moments qu'il a vécu avec Joséphine qui l'a quitté, Joséphine qui était déjà dans Dos au mur et dans Lettre à Joséphine, sauf que là, il n'est pas seulement triste, il est aussi gravement malade, cancer du poumon, il lui reste 3 mois à vivre, et le plus triste, c'est qu'il passe sa vie devant N'oubliez pas les paroles, et il se dit pas au début qu'il faut vivre des trucs incroyables et merveilleux pour le temps qui lui reste, il est simplement vide, presque content que ça se termine enfin.
Oui, je voulais pas faire de ces 3 derniers mois à vivre une sorte de Jeux Olympiques de l'existence, quoi. Le type qui coche toutes les cases, qui fait du saut élastique, qui va aux Maldives, qui fait du surf et qui finit fou de joie dans sa résidence secondaire avec des patins dans sa baraque de cinglé, ça me saoulait. Donc je voulais faire un type qui commençait juste à réapprendre à vivre en rencontrant une nouvelle personne, en se désintoxiquant de sa camisole médicamenteuse qui lui bouffait l'existence et qui est arrêté de mettre plein de trucs entre lui et le monde pour tenir le coup, pour avoir un peu à vivre l'existence comme ça, la vivre pleinement pendant ces 3 derniers mois.
Et puis montrer à son fils aussi les films qu'il aime bien.
Ouais,
partager la beauté, quoi.
Ça, c'était important. Il y en a un dont je n'ai pas parlé dans le livre, mais que je compte bien lui montrer un jour, c'est Un monde sans pitié d'Éric Ronchamp avec Hippolyte Girardot et Yvan Attal, parce que le film commence sur, c'est l'aube à Paris, un camion poubelle, boulevard Saint-Michel, et en voix off, il y a Hippolyte Girardot qui dit « Qu'est-ce qu'on a à part l'amour? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Des lendemains qui chantent? Le grand marché européen? On n'a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça c'est pire que tout. »
Je précise que tout va bien quand même pour vous, enfin tout va bien en tout cas.
Tout va bien,
Il vous reste un peu plus de temps. Ça se termine pour lui, mais vous êtes un écrivain des débuts. Vous adorez tout ce qui commence. Votre troisième roman, d'ailleurs, s'appelait « Un début prometteur ».
Ouais.
C'est vrai, et il le dit aussi, Gabriel, il aime bien tous les débuts.
Oui, 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 c'est vrai, il aime bien les débuts, par exemple, les débuts d'un match de foot, quand il y a les premières minutes, tout est encore possible dans une rencontre sportive, ou alors les débuts d'un comeback d'un chanteur superbe, ou alors les débuts du dépouillement d'une élection présidentielle, par exemple, on ne sait pas encore qui va gagner. Il aime bien les débuts. Les commencements en amour, par exemple.
D'abord.
Voilà, ça, il est très très friand de ça. Ouais, ouais. Et les commencements, il trouve que ça merveilleux. Il aimerait que ça ne s'arrête jamais, les débuts, en fait.
Enfin, les débuts d'un comeback, ça sent quand même la fin.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes un écrivain des débuts, mais c'est peut-être à cause de ça, d'ailleurs. Vous décrivez très bien la fin aussi. Et la fin d'une histoire d'amour en particulier, puisque c'est votre spécialité. Vous parlez, c'est pas la première fois que vous en parlez, d'ailleurs, de la main qui ne répond plus à la pression de la main de l'autre, par exemple. Ouais, et vous avez listé, à mesure que vous écriviez vos romans, quasiment tous les symptômes du début, du milieu et de la fin d'une histoire d'amour. C'est ça votre mission, en fait.
C'était des proches qui disaient « J'aime les histoires d'amour qui se terminent mal, ce sont les plus belles, car ce sont celles qui ressemblent le plus à la vie. » C'est vrai que il y a plein d'indices quand on se retrouve en face d'une personne et que c'est la fin et on refuse de les voir alors qu'il faudrait se barrer direct en fait. Et vous êtes là à essayer de raccrocher d'ultime wagon mais totalement inefficace, ça ne sert à rien. La partie est perdue d'avance mec, il faut juste se barrer en fait. La nana est déjà ailleurs avec quelqu'un d'autre, elle baise déjà avec quelqu'un d'autre. Quand elle te regarde, c'est à la bite d'un autre qu'elle pense. Il faut te barrer direct, mais direct. Et donc, t'es là, tu rames, tu lui tiens la main, elle répond plus à tes pressions, voilà. Elle est pas morte, hein, c'est pire que ça, elle est indifférente. Faut te barrer. Et tu restes. Et non, tu restes jusqu'à la lit.
Je vous fais pas le coup de est-ce que c'est vous, est-ce que c'est vrai, mais c'est vrai qu'à chaque fois vous écrivez toujours un peu aussi de votre vie, mais ouais. Peu importe savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais vous avez une belle formule dans le roman, vous dites l'imagination, c'est l'autre côté de la vie.
Ouais.
Ça, je me note dans mon répertoire à citation de Nicolas Rey. L'imagination, c'est l'autre côté de la vie. C'est ça la littérature pour vous?
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que. Mais l'imagination, elle peut être très terre à terre. Moi, par exemple, quand adolescent, j'ai découvert les livres de Philippe Djian. C'était l'imagination de Philippe Djian quand il écrivait que l'amoureux de Betty dans 37.2 se levait après avoir fait l'amour avec Betty et allait chercher une bière fraîche dans le frigo. Pour moi, c'était après et regarder si le chili incarné était en train de bien chauffer et tout. Voilà, c'était des mots tout simples, des mots de tous les jours, des mots des pauvres gens. Et pour moi, c'était ça. Ça aussi, c'est l'imagination. Ça peut être aussi les mots de tous les jours, l'imagination.
Ne bougez pas, Nicolas. Gardez vos cartouches. On se retrouve dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Nicolas Rey pour son nouveau roman La Marge d'erreur. Au Diable Vauvert, l'histoire de Gabriel Salin, un écrivain qui n'a plus que 3 mois à vivre, qui croit que sa vie est derrière lui parce que sa passion, c'est-à-dire Joséphine, l'a quitté. La passion, justement, c'est le moteur de votre littérature, Nicolas Rey. Il est question dans le roman du cercle des poètes disparus. Gabriel le montre à son jeune fils. Ça fait partie de son panthéon cinématographique. Écoutez cet extrait avec Robin Williams, évidemment, dans le rôle du professeur Keating.
De tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Je vois dans l'œil de M. Pitts, là, que la littérature du 19e siècle n'est d'aucune utilité pour la banque ou la médecine. Hein? Vrai? Peut-être. M. Hopkins est bien d'accord, vous pensez, bornons-nous à apprendre notre M. Pritchard et à annoncer nos rimes et puis nous attaquerons notre programme réel, satisfaire nos vraies ambitions. J'ai un petit secret à vous dire, approchez. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, « Ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse, ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots, qu'y a-t-il de bon en cela, ô moi, ô la vie ? Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime ?
Quelle est votre rime dans ce prodigieux spectacle, Nicolas Rey ?
D'avoir montré ce film il y a peu de temps à mon fils. Ça me touche vraiment parce que, en fait, c'est vraiment de génération en génération, parce que j'en ai parlé à mon père du Cercle des Poètes Disparus le mercredi soir où j'allais le montrer à mon fils. Je lui dis, tous les mercredis soirs, avec mon fils, on se fait une soirée ciné-club. Et j'avais avant dans la soirée mon père au téléphone. Je lui dis, ce soir, je vais découvrir à mon fils le Cercle des Poètes Disparus. Et il avait adoré ce film aussi, ça l'a beaucoup touché. Et j'ai apporté ça, quoi, dans la vie, à mon fils, je lui ai apporté ce film. Et il a pas trop réagi à la fin du film. Moi, je l'avais pas vu depuis que je l'avais visionné en salle, adolescent. Ça m'avait à nouveau bouleversé. Et puis, quelques semaines plus tard, comme ça, lors d'une discussion avec ma sœur, puis d'autres personnes, on a demandé à Hippolyte, on va l'appeler Hippolyte, le top 20 de ses films préférés. Et j'ai vu que dans les 10 premiers, il y avait le Cercle des Poètes Disparus qu'il avait mis. Donc j'ai vu à quel point ça l'avait bouleversé. Et ça m'a fait du bien d'avoir pu transmettre comme ça le flambeau de ce film.
Je voulais en parler plus tard, mais vous venez d'évoquer votre père. Et encore une fois, dans ce roman-là, c'est pas la première fois.
Non.
Il y a l'éloge du père.
Ouais.
Qui est toujours là, malgré la désespérance que lui inspire son fils.
Ouais, je suis un cas irrécupérable, mais mon père... c'est le shérif, quoi. Il est toujours là. Ouais, ouais. Et puis, il est surtout, vous savez, il y a les gens, il y a la plupart des gens, ils sont là surtout quand tout va bien. Puis, il y a des gens comme mon père qui sont là quand ça va pas, quoi. Qui sont là dans les moments difficiles, qui sont là quand il y a plus personne. Et mon père fait partie de ces gens-là.
Alors, on a l'air de parler d'un roman romantique, avec un peu de dépression et beaucoup d'humour à la Nicolas Rey, mais il y a quand même une nouveauté cette fois, c'est qu'il y a un polar aussi dans ce roman.
Oui.
On peut pas trop en dire évidemment, mais alors je dois dire que j'ai rarement lu un crime aussi parfait.
Ah, c'est gentil.
Mais ça m'inquiète presque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méthodes, on éteint son portable, plein de trucs comme ça. On se dit qu'effectivement c'est très très bien foutu et qu'il risque de s'en sortir, ou elle risque de s'en sortir, je dis rien, mais... Comment vous avez bossé ça, là? Vous avez fait un écrivain de polar? Vous êtes documenté et tout? Ou c'est tous les polars que vous avez ingurgités qui vous ont donné la méthode?
Exactement, tous les polars que j'ai ingurgités en livre. Et puis je me tape un ou deux polars en film aussi. Voilà, je vous parle pas des séries, c'est dingue. Donc voilà, c'est tout ce que j'ingurgite. Mais ça fait deux, trois ans que je ne lis que ça. Par exemple... Je savais pas, pour moi, Pierre Lemaître, c'était un auteur de prix Goncourt, point barre, quoi, donc j'allais pas le lire. Mais grâce à ma libraire, qui est une bonne dileuse de livres, j'ai découvert les polars de Pierre Lemaître avec le commandant Vanderen. C'est extraordinaire, ces polars, quoi, à Pierre Lemaître. J'encourage tous nos auditeurs à lire ça, c'est dingue.
Mais vous y êtes allé sans y aller, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que non plus, on peut pas le ranger non plus dans le rayon polar,
non,
tout à fait.
Mais attendez les prochains livres, Nicolas Carré, vous allez
d'accord.
voir. J'y vais tout doucement, j'y vais petit à petit, comme dans certaines pratiques amoureuses, il faut y aller centimètre après centimètre, vous voyez ce que je veux dire.
Vous vous êtes retenu? Pourquoi vous n'avez pas plongé directement dans le polar intégral?
On y va, c'est comme une rencontre amoureuse, on peut pas tout faire le premier soir, on on a pris un premier verre, voilà. Et puis on va dîner le bouquin d'après, et puis on va passer la nuit ensemble, le livre après, voilà.
Alors, un peu malgré vous, c'est vrai, et vous en avez déjà parlé, que vous regardez beaucoup de séries.
Ouais.
Et Gabriel Salin, le narrateur, aussi. Et du coup, on parle beaucoup de séries dans le roman.
Ouais.
De vraies séries qui sont évoquées. Ce sont les chefs-d'œuvre de notre époque pour vous?
Ah oui. Enfin, en tous les cas, moi, je jure que par ça, quoi. J'ai découvert des mondes. Je sais pas, le monde de la chirurgie au début du 19e siècle dans The Knick à New York avec un chirurgien complètement dingue. Le monde de la ville de Baltimore, qui est quasiment balzacien avec The Wire.
The Wire.
C'est fou, quoi. Quand on voit les 5 saisons de The Wire, au fur et à mesure, l'ampleur qu'elles prennent cette saison sur la ville de Baltimore. Au début, on a l'impression que c'est uniquement le ghetto. Après, les flics. Après, la politique. Après, les docs. Après, les journalistes. Et en fait, ça fait la ville entière. C'est balzacien comme truc. C'est incroyable. C'est vrai que The Leftover, par exemple, une série que j'adore, qui est assez même irrationnelle, quoi, et pourtant on y croit, et qui est bouleversante. Non, c'est vrai que je trouve que c'est un art majeur, les séries. Ouais.
Mais justement, quand on parle des séries avec bienveillance, on dit souvent ah, c'est balzacien, ah, c'est Dumas, ah, c'est voilà. Ça vous empêche pas de lire? Et est-ce que vous regrettez de ne pas lire plus, ou alors c'est pas incompatible du tout, ou c'est complémentaire, ou c'est autre chose?
Tout le temps que je ne passe pas à sortir, à voir des gens, à discuter, à faire des ronds de jambes, je le passe ou à lire ou à regarder des séries. Donc voilà, ça se complète en fait.
Merci Nicolas Rey. La marge d'erreur, c'est votre nouveau roman Au diable vos verres. Vous restez avec nous dans un instant lecture. Mais cette semaine, ce n'est pas Philippe Dussault, c'est vous, puisque vous êtes un professionnel aussi de la lecture de textes. J'en ai profité, on écoute dans un instant.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
Retour de La Voix est livre, d'habitude c'est l'heure du livre culte, mais on reçoit Nicolas Rey aujourd'hui pour son roman La Marge d'erreur. Nicolas Rey qui lit divinement bien, y compris sur scène. Alors je vous ai demandé, vous avez accepté de nous apporter un ou deux textes, et c'est chouette parce que vous avez accepté. Alors on commence par...
Par un texte très court de votre écrivain culte.
Et le vôtre.
Et le mien, de David Thomas.
Super.
Issu de la passion des buffles sous la pluie, qui s'appelle Tenir. Pendant 15 ans, je crois qu'il y a eu plus de jours où j'ai eu des idées noires que de jours ensoleillés. Et pourtant, je suis là. Je suis là parce que je me suis toujours dit que tant que mes parents seraient vivants, je tiendrais. Mes parents sont toujours vivants, mais comme nous tous, ils ne sont pas éternels. Seulement voilà, depuis quelque temps, j'ai un enfant. Le problème s'est déplacé. Ça va être long, mais je tiendrai.
C'est magnifique.
Un deuxième texte, donc issu de Belle du Seigneur, d'Albert Cohen. Un soir, peu avant 9h, elle décida que l'attendre dehors, sur le seuil, faisait obséquieux. Oui, aller simplement ouvrir la porte lorsqu'il arriverait, mais ne pas se précipiter, aller tranquillement, en respirant largement, de manière à ne pas oublier qui elle était, de manière aussi à n'être pas essoufflée. Oui, très bien, maîtrise d'elle-même, le faire dignement entrer au salon. Là, conversation, puis proposer une tasse de thé. Bonne idée d'avoir déjà tout apporté au salon pour n'être pas devant lui, en posture de femme de chambre apportant un plateau. Oui, tout y était, théière avec couvre-théière, tasse, lait, citron. Donc, au moment opportun, se lever, verser le thé lentement, lui demander sans servilité s'il voulait du lait ou du citron. Elle essaya. Lait ou citron ? Non, l'interrogation était ratée, ça faisait trop énergique, chef-taine éclaireuse. Elle essaya de nouveau. Lait ou citron ? Oui, ainsi c'était bien, aimable, mais indépendante. Elle se précipita lorsque la sonnette retentit, mais arrivée dans le vestibule, elle fit demi-tour. Avait-elle bien enlevé la poudre ? De retour au salon, elle resta devant la glace, s'y regarda sans s'y voir. Le sang battant à ses oreilles, elle se décida enfin, s'élança, faillit tomber, ouvrit la porte. « Comment allez-vous ? » lui demanda-t-elle, avec le naturel d'un chanteur d'opérette faisant du parler. La respiration difficile, elle le précéda dans le salon. Un sourire immobile posé sur ses lèvres, elle lui indiqua un fauteuil, s'assit à son tour, tendit le bas de sa robe, attendit. Pourquoi ne lui parlait-il pas ? Lui avait-elle déplu? Il restait peut-être de la poudre, elle passa sa main sur son nez, se sentit dépourvue de charme. Parler, sa voix serait enrouée et s'éclaircir la gorge ferait un bruit affreux. Elle ne se doutait pas qu'il était en train d'adorer sa gaucherie et qu'il gardait le silence pour mieux la faire durer. Lèvres tremblantes, elle lui proposa une tasse de thé. Il accepta avec impassibilité. Guindée, les joues enflammées, elle versa du thé sur le guéridon, dans les secoupes et même un peu dans les tasses, demanda pardon, tendit ensuite d'une main le petit pot à lait et de l'autre les rondelles de citron. « Laine ou coton ?» demanda-t-elle. Il eut un rire et elle osa le regarder. Il eut un sourire et elle lui tendit les mains. Il les prit et il plia le genou devant elle. Inspirée, elle plia le genou devant lui et si neuf humblement qu'elle renversa la théière, les tasses, le pot à lait et toutes les rondelles de citron. Agenouillés, ils se souriaient, dents éclatantes, dents de jeunesse. Agenouillés, ils étaient ridicules, ils étaient fiers et beaux, et vivre était sublime.
Merci beaucoup, beaucoup, Nicolas. Vous avez fait une faveur à ce micro, comme vous pourriez écrire. Et vous restez toujours avec nous, Nicolas Rey. Nous partons visiter une bibliothèque dans un instant, celle de Muriel Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail. Et oui, à tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue, nouvelle page. Muriel Pénicaud publie un essai, Pousser les murs, aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre sérieux sur la transition écologique, l'entreprise et tout ça. Muriel Pénicaud, c'est l'ancienne ministre du Travail. Mais je l'ai croisée dans les couloirs d'Europe 1 où elle venait parler de son livre et je me suis dit, tiens. Alors je lui ai demandé si elle accepterait que je vienne voir sa bibliothèque. Elle a dit oui. Alors allons-y. Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
Madame la ministre, pardon.
Oui, c'est bon.
Vous faites partie de ceux et celles qu'on appelle encore Madame la ministre après le mandat.
Moi, on m'appelle comme on veut, Madame la ministre, Madame l'ambassadrice ou Muriel, selon, et tout me va.
Non, mais on est bien d'accord qu'on peut vous appeler encore Madame la ministre.
Oui, oui, c'est une tradition française.
Merci de nous accueillir chez vous, donc pas au ministère. Petite maison, et là, on est au premier étage où il y a tous les livres, mais au rez-de-chaussée, vous avez une sorte de toute petite cour japonaise, c'est-à-dire que tout est japonais chez vous en bas, et même un petit jardin zen et tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette passion pour le Japon?
Alors, vous allez la retrouver dans les livres. J'avais un rapport à l'espace et aux livres différent il y a une vingtaine d'années. Donc, j'avais une maison qui était foisonnante de livres, il y en avait dans absolument toutes les pièces, en vrac, dans le désordre, et j'aimais ce foisonnement. Mais moi, je suis dans une autre phase de la vie où j'aime ce qui est épuré, simple, essentiel. Et du coup, depuis une dizaine d'années, j'ai développé une passion pour les jardins japonais. Et donc, dès que je vais quelque part, je le transforme en jardin japonais, même si c'est petit, si on est à Paris. Donc, c'est pas grand, mais c'est un jardin zen. Et je crois que vous l'avez senti en rentrant. Quand on rentre,
Tout de suite, ça apaise, oui.
Tout le monde
dit, c'est très, très étrange,
on se sent
apaisé, très puissant.
On sent bien, c'est bienveillant et c'est apaisant. Et du coup, c'est pas le lieu où j'ai tous les livres. Je descends et j'y emmène ceux que je suis en train de lire. Mais c'est pas un lieu qui peut être riche, mais donc parfois un peu trop riche, encombré de 1000 vies, de 1000 personnes. C'est un autre lieu, c'est un autre moment.
Alors là, on est au premier étage. On est dans les escaliers exactement, mais j'ai fait un tout petit tour avant pour repérer quand même les lieux. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de visites de bibliothèques. Ouais. C'est rarement classé. Ouais. Chez vous? C'est hyper bien classé et par genre.
Alors, c'est récent parce que, en fait, j'ai déménagé à Paris il y a un an. Et ça m'arrive très souvent de donner ou offrir des livres ou de vouloir retrouver un livre que j'ai lu. Et quand vous en avez commencé à en avoir pas mal, on ne les retrouve plus du tout quand ils sont complètement dans le désordre. Alors, j'ai pris l'occasion du déménagement pour les classer par genre, pour pouvoir retrouver des livres. D'ailleurs, du coup, j'en ai trouvé pas mal, que j'avais en double, en triple, parce qu'ils étaient tellement importants pour moi que je les ai rachetés, et ce qui m'a permis d'en offrir à nouveau, ce qui est bien. Mais je trouve ça reposant pour l'esprit de se dire que ces personnages familiers avec qui on vit, les livres qui sont aussi essentiels dans la vie, et bien tout d'un coup, j'ai envie de lire un truc de si je veux lire quelque chose de Verlaine, ça me prend 5 secondes, ça met pas, je rame pas pour le trouver. Ouais. Et ça, je trouve ça reposant de retrouver ses amis simplement.
Alors, c'est un classique. On est dans l'escalier, et dans l'escalier, c'est la bibliothèque des bandes dessinées. Oui. Et il y a beaucoup, beaucoup de bandes dessinées. Alors, il y a du Chat de Gueluc, il y a du Tintin des vieilles éditions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du classique, hein. Je crois que j'ai vu du Spirou et Fantasio, des choses comme ça. Il y a du 13, il y a peut-être du Largo Winch. Tiens, vous n'êtes pas fan de Largo Winch ?
Oui, mais j'en ai, mais ce n'est pas mon best-of.
C'est vous qui lisez les BD ou
alors,
c'est
d'abord,
enfants,
c'est moi, mes enfants, toute la famille. Mais, ça fait 2-3 générations de BDophiles. Donc déjà ça c'est un peu important. Après moi dans cette série de BD où il y a en gros toutes les BD un peu de la famille, il y en a qui pour moi ont beaucoup plus de sens, enfin qui ont un sens très fort, qui sont peut-être moins connus. Par exemple Taniguchi, moi je suis une fan absolue de Taniguchi. Je suis désolée,
je
vais vous parler beaucoup de Japon, mais je fais pas exprès, c'est juste que ça me parle
Taniguchi
profondément.
Taniguchi, il est là.
Taniguchi, au temps de Boshan,
très beau, ça.
Les années douces, la promenade du rêveur solitaire.
Vous nous décrivez un peu Taniguchi.
Taniguchi, c'est ce qu'on a trouvé aussi un peu dans la poésie japonaise ou dans le roman japonais. C'est une délicatesse extrême. Ça a l'air d'être tout doux, tout lent. Il y a peu d'action et tout d'un coup vous réalisez que vous êtes dedans et que ça y est, vous êtes saisi. Et donc c'est comme une lame du sabre très douce,
ouais.
Un peu de sabre au japonais.
Et tout à coup vous êtes enseveli, quoi.
Et pas enseveli, c'est de l'intérieur. Et donc c'est pour moi c'est assez magique d'arriver avec aussi peu de choses, d'arriver à toucher l'essentiel et le faire évidemment en poésie, dans un jardin japonais, mais aussi en BD.
Oh, vous avez Jim Thompson.
Et oui, ah oui, magnifique.
Âmes.
Ah, c'est.
C'est un grand écrivain américain de polar, mais polar un peu drôlatique comme ça. Et alors là, ça c'est intéressant parce que vous avez la version traduction de Marcel Duhamel, donc c'était la série noire. Et en fait, 1275 âmes, ça raconte l'histoire d'un shérif à qui il arrive plein d'aventures rocambolesques. Mais ça se passe dans un village qui compte 1275 habitants.
Oui.
Enfin, selon la version française. Parce que le titre américain, c'est... Vous voyez, il est là. Pop 1980. Il y a 5 habitants de plus dans la version américaine.
Mais qu'est-ce qu'on en a fait ?
C'est à cause du traducteur qui trouvait que ça sonnait mieux avec 1275.
C'est une blague.
Et donc, ils ont retraduit récemment. Maintenant, c'est 1280.
Et donc, il est collecteur,
Absolument. Et il y a même eu un roman sur... Où sont passés les 5 habitants disparus.
Ça donne envie d'inventer l'histoire des 5.
J'ai envie qu'on avance un peu pour passer à la poésie, parce qu'en fait, je vous ai c'est pour ça que je suis là, je vous ai croisé dans les couloirs d'Europe 1.
Oui.
Je me suis dit, tiens, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous ai posé la question de savoir si vous accepteriez que je vienne voir vos livres. Vous m'avez dit, je veux bien, mais vous allez être déçus, j'ai que de la poésie. Et je vous ai dit, encore mieux. D'abord, je constate qu'il n'y a pas que de la poésie.
Mais disons que si je...
C'est votre grand truc.
Si je partais sur une...
Donc là, on est dans une
déserte,
de bibliothèque avec toute la...
que 3 livres, je crois que ça serait 3 livres de poésie. Voilà.
Ça serait lesquels ?
Alors, c'est ceux... Alors là, je les ai sortis de l'endroit où ils sont habituels, parce qu'ils sont sur ma table de chevet. Je ne peux pas me lever le matin ou me coucher le soir sans lire une poésie.
Ah, vous prenez comme une prescription, quoi.
Je ne le dirais pas comme ça, c'est une respiration. Enfin, le roman fait déjà ça, mais pour moi, la poésie, c'est encore le stade suprême. Ça vous relie à vous, à l'autre, à l'altérité. Et le truc incroyable, c'est qu'en plus, on arrive même à lire de la poésie qui est dans une autre culture, alors qu'on se dit que c'est vraiment la chose intraduisible. Un roman, c'est traduisible.
Oui.
La poésie, en plus, c'est intraduisible. Donc, il y a des traducteurs qui sont des poètes eux-mêmes, qui arrivent en tout cas à faire une résonance qui fait que la poésie est essentiellement et vraiment universelle. Et moi, ça me touche beaucoup. Alors,
vous avez donc René Char, vous avez François Cheng et un recueil de haïkus japonais.
Il est en piteux état parce qu'il sort tous
les jours.
Alors
ça, pour traduire du japonais, alors les haïkus, il faut rappeler, c'est des
haïkus,
courts poèmes.
C'est 3 petits vers. Enfin, c'est pas des vers, c'est minuscule, c'est 3 lignes avec quelques mots. Et
qui répondent à un nombre de pieds très précis.
Oui, il y a un nombre de pieds très précis. Alors, je pense, dans la traduction, je ne sais pas si... je pense qu'ils ne peuvent pas le respecter, ça, mais en japonais, c'est très précis. Donc, c'est un art particulier. Et ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans le haïku, c'est qu'il y a justement ce côté... C'est essentiel. C'est comme une goutte d'eau qui tombe et toute la surface est irradiée. C'est la lame et vous êtes touché. C'est vraiment d'une simplicité extrême, tout en étant en fait très travaillé derrière, mais ça apparaît comme une simplicité. Et du coup, c'est une invitation à une approche poétique de l'existence, qui pour moi est assez vitale.
Vous nous lisez quelques-uns quand même.
Ah ouais, je vais vous en lire quelques-uns. Voilà, je vais faire
ah oui, il est bien abîmé. Il y a des pages qui se décollent et tout.
De Kobayashi Issa. Puisqu'il le faut, entraînons-nous à mourir à l'ombre des fleurs.
Il n'y a pas de commentaire à faire avec les haïkus.
Il n'y en a pas. Sur la feuille de lotus tourne la rosée du monde.
C'est ça ce qui est beau. Vous avez eu un regard là, qui est parti un peu vers le haut. C'est-à-dire qu'on prend ça et puis on ne comprend pas, peu importe. On voit des images et tout, c'est magnifique. Oui. Oui. Et vous écrivez des poèmes?
Oui.
Vous avez un petit carnet et tout ça? Ou alors c'est à l'ordinateur?
Alors j'ai un...
Sur votre iPhone?
C'est un mélange. Les haïkus, l'avantage c'est qu'on peut les écrire sur l'iPhone. Et puis j'avais fait un petit bouquin il y a quelques années de photos et poèmes.
Oui, parce que vous faites de la photo aussi. Oui. Il y a beaucoup de photos, je ne l'ai pas dit, mais vous avez publié un beau livre de vos photos avec des poèmes.
Un petit livre avec des poèmes sous un pseudo. Pas les photos, mais les poèmes.
Sous un pseudo?
Oh, ben, c'est plus personnel, les
poèmes. Il est là, le livre?
Oui.
On peut le voir?
Je peux vous montrer, parce que j'ai même sorti un... Voilà.
Ah oui.
Parce que
c'est quoi votre pseudo?
Il y a déjà un journaliste qui l'a trouvé, donc malheureusement...
Parce qu'il y a deux auteurs de poèmes.
Alors, il y a
Julia Joy.
C'est Julia G. Joy.
Pourquoi?
G. Bah, Joy.
La joie. Bon, d'accord.
Et ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, s'appelait Allegre, c'est d'origine italienne, donc c'était un...
Julia, et le J entre les deux.
Et puis, alors ça, c'est le goût des romans et des polars américains.
Ah, d'accord.
Il y a toujours une... Et alors, GGG, c'est drôle. Voilà, donc...
Mais une belle définition de la poésie, là. Ses yeux sont les yeux du poète, celui qui comprend les couleurs, l'infatigable orateur de leurs paroles muettes. Mmh. Ben, c'est bien, non?
Ben, la poésie est vraiment importante pour moi.
Merci beaucoup, Muriel Pénicaud. Merci pour ce voyage poétique.
Merci.
Retour en studio. Merci beaucoup à Muriel Pénicaud et à sa poésie. Et je rappelle, Pousser les murs, c'est son livre aux éditions de l'Observatoire. Et chez vous, Nicolas Rey, sont rangés comment les livres, si vous avez une bibliothèque d'ailleurs? Ou est-ce que vous vous débarrassez des livres au fur et à mesure que vous les lisez, ou est-ce que vous les chérissez? Est-ce que vous avez des livres anciens?
C'est pas moi qui m'en débarrasse, c'est mon père qui s'en débarrasse pour moi, en fait. Au fur et à mesure des déménagements, il les donne à des amis, je crois. Ma sœur en a quelques-uns aussi. Et voilà, j'ai une petite bibliothèque chez moi, là. Et je suis parti écrire un mois, là, à Vauvert, à Nîmes, entre Nîmes et Montpellier. Et mon père m'a même rajouté un petit morceau de bibliothèque, là, parce que les livres sont assez un peu partout, mais voilà, c'est assez foutraque, c'est n'importe comment.
Comme on l'imagine. Restez avec nous, Nicolas, dans un instant, plein d'autres livres, puisqu'il est l'heure des libraires. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est livre. Nicolas Carreau.
La Voix est livre, et c'est l'heure de rendre visite à un libraire, direction la 25e heure à Paris, 15e, chez Christophe Daniel. Bonjour Christophe Daniel.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Alors, on a eu un problème parce que juste avant d'allumer les micros, vous m'avez quand même dit les livres dont vous aimeriez nous parler. Et il y avait Miracle à la combe aux aspics de Ante Tomic aux éditions Noir sur Blanc. Mais Thibaut Raden nous en a déjà parlé, il a adoré. Mais vous avez souvent les mêmes goûts avec Thibaut.
Il a bon goût Thibaut. C'est un bouquin vraiment hilarant, truculent et il n'y en a pas tant que ça. Et là, on est dans un petit village dans la Dalmatie. Et on suit le père de famille, Joso, avec ses quatre fils adultes, qui vivent complètement en autonomie et loin de tout le monde, de divers trafics. Quand tout à coup, deux employés de la commune viennent les voir parce qu'ils ont des factures en retard. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas payé l'électricité.
Et c'est très drôle. Et Thibaut nous avait dit, c'est Le Père Noël est une ordure version croate. Alors vous avez quand même deux autres livres. Du coup, on va pas passer la moitié de la séquence là-dessus. Et notamment un livre chez Albin Michel qui s'appelle Le Fleuve des Rois de Taylor Brown, traduit par Laurent Bosque.
Oui, magnifique roman. Alors le Fleuve des Rois, c'est un fleuve qui se situe en Géorgie, dans l'État de Géorgie aux États-Unis, et qui porte le nom de Altamaha. C'est le personnage principal, on peut dire, du roman. Sauf qu'il y a deux fils narratifs. narratif. Il y a, on va suivre d'abord deux frères, Lawton et Hunter. On est dans les années 2000. Leur père est décédé un an auparavant. Un des frères était en mission, donc il ne revient qu'un an après le décès de son père. Et ils partent tous les deux en kayak descendre cette rivière pour aller disperser les cendres de leur père. Ça, c'est le premier fil narratif. Le second, on est en 1564 avec un personnage qui a réellement existé, qui s'appelait Jacques le Moine de Morgue, dessinateur et cartographe du roi Charles IX, et qui va nous faire le récit de cette expédition qui a lieu en 1564, avec évidemment des conflits, des guerres avec les autochtones, avec les Espagnols. C'est vraiment à la fois un roman épique, mais en même temps très intime aussi, notamment dans le premier récit avec ses deux frères, qui ont une relation assez subtile et qui font de cette descente de la rivière aussi une sorte de roman d'apprentissage où ils vont se rappeler leur passé et puis évidemment aussi envisager un futur possible pour eux deux. Ils sont un moment charnière de leur vie. Et puis aussi essayer de résoudre l'énigme parce que leur père est soi-disant mort de manière accidentelle, mais un des deux frères suppute qu'il y a quelque chose d'un peu plus louche. Voilà, c'est vraiment un roman éblouissant.
Un grand roman américain, 500 pages, qui nous tient longtemps et auquel on repense souvent.
Exactement, avec des personnages très forts. Et voilà, roman d'aventure, roman d'apprentissage, tout est rassemblé en 500, 600 pages à peu près.
Le fleuve des rois de Taylor Brown. Et alors, comme vous ne pouviez pas trop parler de Miracle à la Combe aux Aspics, vous m'avez dit, tiens, mais je vais parler de ce livre-là, qui est un tout, tout petit livre aux éditions Sillage.
Un tout, tout petit livre, mais vraiment important. Ce sont des nouvelles, donc trois nouvelles de cette femme qui s'appelait Dorothy Parker, qui était contemporaine de Fitzgerald, très amie avec lui, avec Dashiell Hammett, qui était à la fois journaliste, poétesse, scénariste aussi, elle a eu un Oscar à Hollywood, et elle n'a écrit, enfin, en tout cas dans ce qu'on connaît en traduction, que des nouvelles. Des nouvelles avec une férocité, une cruauté, mais aussi une forme d'empathie et de tendresse pour ces personnages. C'est drôle, c'est parfois méchant, mais avec, avec cette compassion pour ces personnages. Donc là, le recueil regroupe trois nouvelles autour du couple. Ça s'appelle Monsieur Durand et autres histoires de couple. C'est publié par les éditions Sillage, qui est une petite maison d'édition merveilleuse. Et le livre, en tant qu'objet, est déjà très beau. Et ils ont à chaque fois un choix de texte vraiment magnifique.
Ah oui, c'est un petit bijou. Dorothy Parker, Monsieur Durand et autres histoires de couple aux éditions Sillage. Et on a dit donc Taylor Brown, Le fleuve des rois chez Albin Michel. Merci beaucoup, Christophe.
Merci, Nicolas.
Europe 1.
Retour à Europe 1. Dans un instant, nous sommes rejoints par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, mais on retrouve ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, vous avez un gros pavé, mais intitulé « Tout sur la littérature jeunesse, de la petite enfance aux jeunes adultes » de Sophie van der Linden. C'est votre livre de chevet en fait.
Oui, exactement. C'est une bible, c'est ma bible qui pourrait bientôt devenir celle de jeunes parents qui veulent faire découvrir la lecture à leurs enfants. Mais qui souvent manque d'idées en fait, c'est là le problème. C'est simple, il y a tout dans ce grand livre, de la naissance de la littérature jeunesse à l'Antiquité, aux derniers ouvrages, les ressorts sur lesquels les auteurs jouent, la peur bien sûr. Il faut traumatiser les enfants, disait Tommy Ungerer, qu'on a interviewé ici, le célèbre auteur de livres jeunesse. Les titres, bien évidemment, il y en a en pagaille, il y a un cauchemar dans mon placard, ou encore il y a un alligator sous mon lit, parleront peut-être à certains. Mm-hmm. Les animaux, grandes vedettes bien sûr de la littérature jeunesse, sont parfaitement disséqués. Il y a Jefferson dont je vous ai parlé récemment, ou encore le célébrissime album de la Top qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête.
Mais c'est pour les gamins qui s'intéressent à la littérature jeunesse ou c'est un guide pour les parents ?
Non, c'est plus un guide pour les parents, très clairement, pour se repérer en fait. Une bible parfaitement ordonnée, découpée en 8 grandes sections. Vous comprendrez toutes les classifications de la littérature jeunesse. On en a longuement parlé ici, Nicolas, notamment des premiers imagiers jusqu'au premier roman, au roman
ado. Ah bah, faut avoir fait Polytechnique.
Ah oui, faut avoir fait Polytechnique. Mais là, vous comprendrez tout avec ce livre. Il y a aussi des conseils pour donner le goût de la lecture aux enfants, comment redonner aussi une place de choix aux livres dans la maison, comment lire aussi aux tout petits, l'intonation qu'il faut prendre. Enfin, vraiment toute une série de conseils.
Ah ouais, l'intonation et tout.
Une bible de 300 pages, truffée de références aux grands classiques de la littérature jeunesse, les Harry Potter indémodables, les inoubliables Chair de poule, ça aussi, ça doit vous parler, Nicolas. Et les dernières nouveautés, c'est fait avec beaucoup d'intelligence, un ouvrage qui fera référence à coup sûr dans les années à venir.
Parfait, je vous le garde. On rappelle le titre, Tout sur la littérature jeunesse de la petite enfance aux jeunes adultes, de Sophie van der Linden. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est drôlement joli. Merci beaucoup, Victor.
Merci, Nicolas.
Et vous, Nicolas Rey, c'est quoi le premier livre que vous avez lu ou qui vous a marqué?
Que j'ai lu et que j'ai adoré lire, je me souviens des fous rires, c'était Les Sangs d'Antonio qui traînait chez moi. Et je me souviens, voilà, de fous rires avec Berruyer, voilà, Pinault. C'était incroyable.
Mais c'est ça ce qui vous a donné envie de devenir écrivain? Parce que vous n'êtes pas vraiment dans le même style.
Non, mais vous me demandez les premiers livres que j'ai lus, c'est ça. Après, ce qui m'a plus donné envie d'être écrivain, c'est quand... À l'âge de 15-16 ans, j'ai lu les premiers Philippe Djian. Ouais, ouais. Maudit Madège, Échine, 37-2. Ouais, là. Moi, j'y ai pas pensé, mais je me suis dit, tiens, ça peut être ça, la littérature, en fait. Ça peut être un truc vivant, patient, humain.
Il le sait, vous lui avez dit, vous connaissez?
Ouais, on s'est vu, ouais, on s'est vu. J'avais fait pour Technica un portrait de Philippe et ça avait été un moment un peu spécial parce que il est sourd d'une oreille. Au début, l'interview c'était sur une terrasse, il y avait du bruit, donc ça s'était pas très bien passé. Puis moi, j'étais trop fan pour faire une bonne interview. Et puis après, donc au début, ça s'était pas bien passé. Puis après, le photographe avait pris des clichés de lui dans son appartement. Et puis là, en fait, je devais m'en aller. Et puis il m'a proposé de rester déjeuner, et puis là il m'a fait un lapin, et puis en fait quand il m'a expliqué comment il cuisinait son truc, là le contact est, on a réussi à se parler en fait, parce qu'on parlait de trucs, avec Philippe Djian il faut parler de trucs précis quoi. Non mais c'est vrai, tout de suite si tu parles cuisine, ça devient un truc, voilà.
Sérieux quoi. Et voilà. Vous cuisinez vous?
Alors ouais, il y a un scoop, je fais hyper bien le tartare de saumon, mec.
Oh, c'est fastoche.
Ah non, c'est hyper dur. Ah non, parce qu'il y a tartare de saumon et tartare de saumon. Là, donc il y a du saumon coupé voilà, en dés, de la mangue, de l'avocat, citron vert, citron jaune et de la civette. C'est des petits oignons qu'on coupe comme ça en morceaux. Et voilà. Et je suis hyper doué. Je fais ça divinement et je sais doser à merveille l'huile d'olive et le vinaigre balsamique pour que ça soit onctueux au possible. Ah non, je suis un tueur.
En tout cas, continuez à cuisiner de superbes romans. Ah, merci beaucoup, Nicolas. La merci marge Nicolas. D'erreur. Au diable Vauvert, à bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.